Il haussa les épaules et reprit.
« Allons, je vois que vous n'êtes pas encore tout à fait au point. Cela vient sans doute de ce qu'il vous reste l'espérance d'un secours. Braville, peut-être. Cet excellent Braville dont vous êtes le bras droit. Ma bonne amie, vous tombez mal. Figurez-vous que Braville est compromis dans l'affaire du canal. Oh, pas directement. » C'est-à-dire que son nom n'est pas sur la liste des 27, mais il s'y trouve sous le nom d'un de ses amis, l'ancien député Voranglade, Stanislas Voranglade, son homme de paille, paraît-il. Un pauvre diable que je laissais tranquille, et pour cause. J'ignorais tout cela. Et puis, voilà-t-il pas que l'on m'annonce ce matin, par lettre, l'existence d'un paquet de documents qui prouvent la complicité de notre sieur Braville. Et qu'est-ce qui m'annonce cela? Voranglade lui-même. Voranglade, qui, las de traîner sa misère, veut faire chanter Braville, au risque d'être arrêté lui aussi, et qui ne demande qu'à s'entendre avec moi. Et Braville saute. Ah, elle est bonne, celle-là. Et je vous jure qu'il va sauter, le brigand. Crebleu, depuis le temps qu'il m'embête. Ah, Braville, mon vieux, tu ne l'as pas volé.
Il se frottait les mains, heureux de cette vengeance nouvelle qui s'annonçait.
Vous le voyez, ma chère Clarisse, de ce côté, rien à faire. Alors quoi ? À quelle racine vous raccrochez? Oh, mais j'oubliais. Monsieur Arsène Lupin, Monsieur Grognard, Monsieur Le Balu. Vous avouerez que ces messieurs n'ont pas été brillants, et que toutes leurs prouesses ne m'ont pas empêché de suivre mon petit bonhomme de chemin. Que voulez-vous? Ces gens-là s'imaginent qu'ils n'ont pas leur pareil. Quand ils rencontrent un adversaire qui ne s'épate pas comme moi, ça les change, et ils entassent gaffe sur gaffe, tout en croyant qu'ils le roulent de la belle manière. Collégien, va. Enfin, tout de même, puisque vous avez encore quelque illusion sur le susdit Lupin, puisque vous comptez sur ce pauvre air pour m'écraser et pour opérer un miracle en faveur de l'innocent Gilbert. Allons-y, soufflons sur cette illusion. Ah, Lupin, Seigneur Dieu, elle croit en Lupin. Elle met en Lupin ses dernières espérances. Lupin, ah, attends un peu que je te dégonfle, illustre fantoche. C'est de la part du numéro 129, mademoiselle. Je vous prierai de faire monter la personne qui est assise en face de votre bureau. Allô ? Oui, mademoiselle, un monsieur avec un chapeau mou de couleur grise. Il est prévenu. Je vous remercie, mademoiselle. Soyez sans crainte. Ce monsieur est la discrétion même. C'est d'ailleurs la devise de son emploi. Célérité et discrétion. Ancien agent de la sûreté, il m'a rendu déjà plusieurs services, entre autres celui de vous suivre pendant que vous me suiviez. Si depuis notre arrivée dans le midi, il s'est moins occupé de vous, c'est qu'il était plus occupé par ailleurs. Entrez, Jacob. Jacob, ayez l'obligeance de dire à madame, en quelques paroles brèves, ce que vous avez fait depuis mercredi soir, jour où, la laissant monter gare de Lyon, dans le train de luxe qui m'emportait vers le midi, vous êtes resté, vous, sur le quai de cette même gare. Bien entendu, je ne vous demande l'emploi de votre temps qu'en ce qui concerne madame et la mission dont je vous ai chargé.
Le sieur Jacob alla chercher dans la poche intérieure de son veston un petit carnet qu'il feuilleta, et dont il lut, du ton que l'on prend pour lire un rapport, les pages suivantes. Mercredi soir, 7h15, gare de Lyon. J'attends ces messieurs Grognard et le Balu. Elles arrivent avec un troisième personnage que je ne connais pas encore, mais qui ne peut être que monsieur Nicole. Moyennant 10 francs, j'ai emprunté la blouse et la casquette d'un homme d'équipe, et abordé ces messieurs, et leur ai dit de la part d'une dame qu'on s'en allait à Monte-Carlo, et ensuite téléphoné au domestique de l'hôtel Franklin. Toutes les dépêches envoyées à son patron et renvoyées par ledit patron seront lues par ledit domestique et au besoin interceptées. Jeudi, Monte-Carlo. Ces trois messieurs fouillent les hôtels. Vendredi, excursion rapide à la Turbie, au Cap d'Aille, au Cap Martin. Monsieur Dobrec me téléphone. Il juge plus prudent d'expédier ces messieurs en Italie. Leur fait donc adresser par le domestique de l'hôtel Franklin une dépêche leur donnant rendez-vous à San Remo. Samedi, San Remo, quai de la gare. Moyennant 10 francs, j'emprunte la casquette du portier de l'ambassadeur Palace. Arrivé de ces trois messieurs, on s'aborde, leur explique de la part d'une voyageuse, Madame Mergy, qu'on va aller jusqu'à Gênes, hôtel Continental. Hésitation de ces messieurs. Monsieur Nicole veut descendre. On le retient. Le train démarre. Bonne chance, messieurs. Une heure après, je reprends un train pour la France et m'arrête à Nice, où j'attends les ordres nouveaux.
Le sieur Jacob ferma son carnet et conclut.
C'est tout. La journée d'aujourd'hui ne sera inscrite que ce soir.
Vous pouvez l'inscrire dès maintenant, monsieur Jacob. Midi, monsieur Dobrec m'envoie à la compagnie des wagons-lits. Je retiens 2 sleepings pour Paris au train de 2h48 et les envoie à monsieur Dobrec par un express. Ensuite, je prends le train de 12h58 pour Vintimille, station frontière où je passe la journée dans la gare à surveiller tous les voyageurs entrant en France. Si messieurs Nicole, Grognard et Le Balu avaient l'idée de quitter l'Italie, de revenir par Nice et de retourner à Paris, j'ai ordre de télégraphier à la préfecture de police que le sieur Arsène Lupin et 2 de ses complices sont dans le train numéro X.
Tout en parlant, Dobrec avait conduit le sieur Jacob jusqu'à la porte. Il la referma sur lui, tourna la clé, poussa le verrou et, s'approchant de Clarisse, il lui dit
« Maintenant, écoute-moi, Clarisse. »
Cette fois, elle ne protesta point.
Que faire contre un tel ennemi, si puissant, si ingénieux, qui prévoyait jusqu'au moindre détail et qui se jouait de ses adversaires avec tant de désinvolture?
Si elle avait encore pu espérer dans l'intervention de Lupin, le pouvait-elle, à cette heure, qu'il errait en Italie à la poursuite de fantômes?
Elle comprenait enfin pourquoi 3 télégrammes envoyés par elle à l'hôtel Franklin étaient restés sans réponse. Dobrec était là, dans l'ombre, qui veillait, qui faisait le vide autour d'elle, qui la séparait de ses compagnons de lutte, qui l'amenait peu à peu, prisonnière et vaincue, entre les 4 murs de cette chambre. Elle sentit sa faiblesse. Elle était à la merci du monstre. Il fallait se taire et se résigner. Il répéta avec une joie mauvaise.
« Écoute-moi, Clarisse. Écoute les paroles irrémédiables que je vais prononcer. Écoute-les bien. » Il est midi. Or, c'est à 2h48 que part le dernier train. Tu entends? Le dernier train qui peut me conduire à Paris demain, lundi. Attends pour que je sauve ton fils. Les trains de luxe sont complets. Donc, c'est à 2h48 qu'il faut que je parte. Dois-je partir?
Oui.
Nos sleepings sont retenus. Tu m'accompagnes?
Oui.
Tu Tu connais les conditions de mon intervention ?
Oui.
Tu acceptes ?
Oui.
Tu seras ma femme ?
Oui.
Ah, ces réponses horribles. La malheureuse les fit dans une sorte de torpeur affreuse, en refusant même de comprendre à quoi elle s'engageait. Qu'il partît d'abord, qu'il écarta de Gilbert la machine sanglante dont la vision l'a hantée jour et nuit. Et puis
il arriverait ce qui devrait arriver. Ah, coquine, c'est bientôt dit. Tu es prête à tout promettre, hein? L'essentiel, c'est de sauver Gilbert, n'est-ce pas? Après, quand le naïf Daubrecq offrira sa bague de fiançailles au Bernic, on se fichera de lui. Allons, voyons. Assez de paroles vagues. Pas de promesses qu'on ne tient pas. Des faits immédiats.
Et nettement, assis tout près d'elle, il articula.
Moi, voici ce que je propose. Ce qui doit être. Ce qui sera. Je demanderai, ou plutôt, j'exigerai non pas encore la grâce de Gilbert, mais un délai, un sursis à l'exécution, un sursis de 3 ou 4 semaines. On inventera n'importe quel prétexte, ça ne me regarde pas. Et quand Madame Mergy sera devenue Madame Daubrecq, alors seulement, je réclamerai la grâce, c'est-à-dire la substitution de peine. Et sois tranquille, on me l'accordera.
J'accepte. J'accepte.
Oui, tu acceptes parce que cela se passera dans un mois. Et d'ici là, tu comptes bien trouver quelque ruse, un secours quelconque, Monsieur Arsène Lupin.
Je jure sur la tête de mon fils.
Oh, la tête de ton fils? Mais ma pauvre petite, tu te damnerais pour qu'elle ne tombe pas.
Oh, ah oui, je vendrai mon âme avec joie.